La vraie vie est de plus en plus essaie de contrer tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'imprévu et du pas droit. Ouais, ça essaie de normer le biscornu. Alors moi, ce que je veux, c'est que les choses ne soient pas prévues, elles soient biscornues. Et s'il n'y a plus ça, putain, il n'y a plus grand-chose, quoi.
Des gosses dans une cour d'école, une chanson qui change une vie et Marcello Mastroianni s'est échappé avec Alfred, dessinateur. Parmi tous les livres dessinés d'Alfred, et il y en a pas loin d'une quarantaine, plusieurs se déroulent en Italie. L'un d'entre eux a été adapté au cinéma, c'est Come Prima, pour lequel il reçut le prix du meilleur album à Angoulême. L'Italie, il y a grandi, son père est né là-bas, et c'est un pays présent dans son dernier livre, Les Jardins Invisibles. Sur la couverture, on voit un gosse au milieu de ce qui ressemble à une forêt vierge, ce sont des plantes d'appartement en fait, et au cœur de cette forêt de poche, le gamin lit. Il y a une petite guitare bleue et des dessins autour de lui. Ce gosse, c'est Alfred. Il a retrouvé le fil de cette enfance pour les jardins invisibles. Dans le texte qui ouvre le livre, Alfred écrit qu'il dessine pour ne pas disparaître et pour ne pas oublier. Dans la conversation qui suit, il parlera d'une mélodie qui a changé sa vie. Il a dessiné les coulisses d'un album d'Étienne Dao et bientôt un livre avec Arthur H. Alfred m'a donné rendez-vous au Centre culturel italien à Paris. Il faisait beau, il y avait un jardin près d'une cour d'école, alors on est resté dehors.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
J'ai enregistré le bruit des graviers quand même.
Ah, donc on fait un tour sans rien dire. Ça marche. J'étais encore au studio de marchage dans le gravier.
Comme ça, ça fait cartoon. Après, on dirait qu'on claquerait une porte et puis qu'on viderait de l'eau dans un verre.
Qu'on déboucherait une bouteille d'eau pétillante. Attention, chaise.
Alors, attendez, je pose juste mon petit matériel. Si vous pouvez tenir le micro deux secondes.
Je peux faire ça. De toute façon, ça, c'est des choses que vous coupez.
Pas forcément.
Pas forcément. Donc, faut pas que je dise n'importe quoi, là, par exemple, pendant que vous êtes en train de chercher votre matériel.
Oh. Improviser, combler,
ouais,
combler, comme on dit.
C'est pour ça que nous sommes ici, donc à l'Institut italien à Paris. Ma première idée, d'ailleurs, elle avait été de vous donner rendez-vous en Italie directement. Je m'étais dit que ça avait un peu de panache, et puis je me suis quand même dit que ça allait être très compliqué de faire ça dans la journée. Et que donc c'était une façon de se donner rendez-vous en Italie que de venir ici à l'Institut culturel italien à Paris.
Vous avez grandi dans une famille bruyante ou silencieuse ou...
Une famille agitée, mouvementée. Moi, j'ai grandi dans une famille de comédiens un peu hauts en couleur. Et donc, il y avait souvent du monde à la maison. On était quand même nombreux, j'ai deux frères, donc on était trois garçons. On était une famille italienne en partie, donc c'était quand même assez tumultueux, on va dire plutôt.
Le dessin, ça amène quoi au milieu de tout ce bruit, tout ce brouhaha ?
Pour moi, le dessin, en tout cas, ça amenait un endroit de calme au milieu de l'orage. J'étais quand même un petit garçon assez anxieux, je pense, et une partie du tumulte qu'il y avait autour, qui était très joyeux, devait me déstabiliser quand même. Je pense que je trouvais pas... Je ne savais pas quelle était ma place au milieu de tout ça. Et le dessin, c'était une place. Une place dans laquelle je pouvais me plonger, je pouvais m'oublier pour me concentrer sur un petit carré blanc avec un crayon. Rien de plus, je vois les bords de la feuille. Je sais à peu près donc quelle est la surface du territoire, de mon territoire, la feuille. Et puis à partir de là, tout est possible. Et tout est possible pendant des heures. Et pendant des heures, d'éteindre tout ce qu'il y avait autour. Pour peut-être éclairer un peu plus ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne sais pas.
Et alors, au début des Jardins Invisibles, vous avez écrit un texte et où vous dites que vous vous êtes mis à dessiner pour ne pas que vos parents vous oublient.
Je ne comprenais pas toujours très très bien ce qui se passait autour. Donc très certainement que mes parents me disaient qu'ils allaient partir en tournée, mais que je n'avais pas vraiment entendu la chose et que je comprenais d'un coup qu'en fait, ils ne seraient plus là pendant des jours. Il y a eu un moment... Une espèce d'angoisse qui était que j'étais tellement un petit gars un peu réservé, un peu timide, que fatalement on allait oublier que j'étais là. On allait forcément à un moment ne plus penser à ma présence et faire des dessins sur des feuilles. Mais c'était un moyen de laisser des traces quelque part. C'était une façon pour moi de dire quand mes parents rentreront, ils verront ce que j'ai fait un peu à l'école ou ce que j'ai fait dans ma journée ou à quoi j'ai rêvé l'autre nuit. Je mettais certains de ces dessins sur la porte de leur chambre pour qu'ils trouvent ça quand ils rentreraient parce que je ne comprenais jamais bien exactement quand est-ce qu'ils allaient rentrer. Donc il y avait pour moi quand même quelque chose de l'ordre de tant que je laisse une petite trace, aussi discrète soit-elle, c'est une manière de ne pas être complètement oublié Alors, peur d'enfant, mais il y a quand même aujourd'hui, je crois, quelque chose de l'ordre de tant que je dessine, je suis dans le monde et je suis en connexion avec les autres. Quand je m'arrête, il y a quelque chose qu'il faut que je prenne sur moi un peu, quoi.
Vous avez évoqué le métier de vos parents, à savoir celui de comédien. Et l'une de vos particularités, je dirais, c'est que vous, vous reliez la bande dessinée au théâtre. Alors qu'en général, on relie la bande dessinée et le cinéma. Et dans Les Jardins Invisibles, vous avez cette phrase, comme votre père est comédien, vous dites « Mon père est ma première leçon de dessin ».
En fait, quand je les accompagnais, mes parents, dans les théâtres dans lesquels ils se produisaient, ma place à moi, c'était d'être sur le bord de la scène, en coulisses, et de dessiner ce que mes parents étaient en train de jouer sur scène. Ils avaient un théâtre assez dépouillé. Il n'y avait pas de décor, ou très très peu, quelques accessoires, mais on partait du principe que cette chaise était une Fiat 500, et donc pendant tout le reste de la pièce, la chaise était une Fiat 500. Et moi, je dessinais tout ça en réinterprétant, en dessinant justement une Fiat 500, ou un arbre, ou un cheval, ou un cavalier, à l'endroit où il n'y avait rien du tout sur scène. Et donc, pour moi, la bande dessinée, c'est très très lié au théâtre. Une scène de théâtre, ça peut faire 2 mètres sur 2. Il faut arriver quand même à faire croire qu'il y a tout un peuple en révolte là-dedans. Et je trouve ça fascinant. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai construit ma manière de mettre en scène, de raconter un peu, et puis de me dire parfois, eh ben, dans cette petite case de 10 cm sur 10, il faut que je donne la sensation qu'il y a la mer à perte de vue. Je conçois ça comme ça. Et le cinéma est trop grand pour moi.
Comme on en parlait de comédien, j'aimerais qu'on écoute la voix que vous avez choisie, à savoir Marcello Mastroianni.
Tout à fait.
Alors, on va écouter la voix de Marcello Mastroianni qui est face à une journaliste québécoise qui s'appelle Lise Payette. Mmh. Et c'était en 1974.
Vous vous êtes efforcé de détruire, en tous les cas, un mythe. En ce qui vous concerne, c'est le mythe du séducteur.
Oui, oui, j'essayais, mais je n'ai pas arrivé. C'est une image qui vraiment ne me concerne pas du tout, parce que si on va voir le film que moi j'ai fait dans ma carrière, il n'y a jamais un séducteur. Ce sont des hommes qui peuvent être aimés par les femmes, mais qui n'ont rien de la virilité qu'on attribue souvent aux séducteurs. Une fois ici à Paris, ça fait quelques années, on était venu à tourner une séquence d'un film qui s'appelait Casanova 70. Alors, il y avait franchement beaucoup de journalistes, et tous ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était mon rapport avec les femmes, ma position de séducteur. Et moi, franchement, et brutalement, j'ai dit, je suis impuissant, donc je ne vais pas vous répondre. Vraiment, croyez-moi, je suis impuissant. Moi, j'ai fait même un film comme impuissant, Le Bel Antonio s'appelait.
Et là, on a eu peur pour vous, parce qu'on a dit, oh, c'est peut-être la fin de Mastroianni, parce que c'est,
non,
c'est audacieux de tourner un rôle comme
parce
ça.
Parce que j'avais compris, c'était venu tout de suite après la Dolce Vita.
Il fallait régler film.
Parce que j'ai vu que tous les producteurs, ils nous voulaient encore une fois avec une veste bleue, et au milieu de femmes, comme ça, de dames, la Dolce Vita et tout ça. Alors je sentis que j'ai risqué une étiquette qui m'aurait très gêné puis dans la carrière, qui m'aurait empêché de m'amuser avec ce métier. De, je sais pas, la Terre, il s'amuse quand il change de rôle, non?
Bon, c'est génial. Alors déjà de l'entendre, je trouve ça toujours très émouvant. Il fait partie de ces voix, j'ai l'impression qu'il me... Il y a une voix pour moi comme une carte postale, Marcello Mastroianni. J'ai l'impression que directement, ça me relie à ce que j'entends des gamins. En plus, là, il parle un français merveilleux. Que ce soit un homme ou une femme, je trouve ça fabuleux toujours d'entendre un Italien qui parle français. Là où je ne serais pas d'accord avec lui, c'est quand il dit « je n'y suis pas arrivé » de casser cette image de séducteur. Moi, je trouve qu'il a brillamment réussi, justement, avec alors, un physique hallucinant de beauté. Enfin, c'est une statue grecque fabuleuse, une voix qui était merveilleuse. La quasi-totalité de sa carrière, il l'a fait en jouant des personnages qui vont à l'encontre de ça, à quelques exceptions près. Et je crois qu'aujourd'hui, on retient, oui, bien sûr qu'il était ça, qu'il était très beau, mais on retient surtout qu'il était capable d'en rire, de se ridiculiser, de jouer le rôle d'un personnage impuissant, de jouer le rôle dans un film merveilleux, enfin, que Una giornata particolare de Ettore Scola, il joue le rôle...
Donc, une journée particulière.
Ouais. Il joue le rôle d'un homosexuel persécuté par le régime fasciste, avec une Sophia Loren, pareil, qui joue un contre-emploi en jouant une femme au foyer... Qui est mal fagoté, qui n'est pas très à l'aise dans son corps. Moi, voilà, j'ai un amour profond pour ce cinéma-là et c'est sans doute ce qui a inspiré le plus ma façon de vouloir faire des livres, en tout cas, que de m'intéresser a priori aux gens qui ne sont pas les gagnants au début, quoi. Mais on est parti un peu loin de Mastroianni, là. J'aime énormément cet homme-là et ce qu'il véhicule, qui a la beauté d'un Alain Delon chez nous, je ne sais pas, en tout cas à cette époque-là, et qui pourtant va vouloir interpréter des petits gars normaux qui se sont empêtrés, qui font ce qu'ils peuvent avec la vie, en fait, quoi. À chaque fois, c'est ça.
Au point finalement de consacrer un livre, mais c'est un état d'esprit qui est présent à d'autres moments de votre œuvre, au point finalement de représenter ce que vous appelez des moments de bascule dans la vie de chacun. Et ces moments de bascule n'ont rien de spectaculaire. Ça tient à un regard, ça tient aussi à un moment, ça j'aimerais le raconter, un moment où vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « Oh, j'ai la peau de mon père ». Au même âge.
En fait, je crois qu'on est composé toutes et tous de beaucoup plus de petits fragments discrets que de grands événements spectaculaires dans nos vies. On croise bien plus au quotidien de toutes petites choses qu'on repère pas forcément sur le moment, mais qui vont faire un bout de ce qu'on est. Donc oui, cet exemple que vous citez là sur c'est je suis en train de mettre de la crème à bronzer, anti-bronzer, pour se protéger.
Protection solaire,
merci. Sur le dos de ma fille qui à ce moment-là doit avoir 7-8 ans et je suis en train de la taquiner sur le fait qu'elle est un peu rouge et que je lui dis qu'elle a une peau de grenouille. Et puis elle me répond que et toi avec ta peau de papa. Et c'est là qu'effectivement je me rends compte en me regardant dans la glace que j'ai les mêmes, ça y est, j'ai les mêmes taches, les mêmes nœuds de peau que mon père au même âge, et en tout cas que je me souviens quand j'avais son âge à elle à ce moment-là, 7-8 ans, que je voyais la peau de mon père comme ça. Et c'est un petit moment, c'est rien de spectaculaire, évidemment, c'est pas une grande annonce. Mais sauf que j'arrête pas d'y penser depuis, ça fait presque une petite dizaine d'années que ce truc-là est arrivé, et que je continue de me dire, il m'habite ce moment-là. Il a pris une place en moi, j'y pense régulièrement. Ça ne m'encombre pas. Mais je pense qu'on a effectivement, nous, des milliers de petites choses discrètes qui sont peut-être même plus fortes par leur nombre aussi que les 4-5 grands moments spectaculaires de nos vies. Quoi.
On va rentrer parce que les gosses, ils sont... Parce que ça joue à côté, quoi. Le groupe Junior dans Totémique, avec ce titre monumental donc. We'll be right back. La scène se passe en Italie, un jour d'été, au bord de la mer. Un garçon de 14 ans, son père et son grand-père sont installés sur un rocher pour pêcher. Cet ado de 14 ans, c'est Alfred. Son grand-père s'en mêle les pinceaux avec sa canne à pêche et il casse tout. Il est paumé. Il a un regard qui dure une fraction de seconde. Et ce regard, Alfred l'a dessiné dans Les Jardins Invisibles, son dernier livre. Une collection de moments furtifs mais définitifs, des micro-événements qui n'ont l'air de rien et qui changent pourtant la vie d'un homme. La scène se passe en Italie, un jour d'été, au bord de la mer, au milieu des années 80.
Alors, je me souviens de ce moment-là très bien, parce que je me souviens parfaitement, j'ai une quinzaine d'années, mais je me souviens parfaitement ne pas avoir compris ce qui venait de se jouer là, mais avoir compris qu'il venait de se jouer quelque chose. C'est-à-dire mon grand-père qui, effectivement, a appris à mon père à pêcher, qui m'a appris à moi, enfin, à pêcher. Donc tout ça, il sait faire les yeux fermés, monter une canne à pêche. Sauf que là, à ce moment-là, il ne sait plus. Et il monte son fil à l'envers avec le moulinet. Je ne sais pas ce qu'il bricole. Le truc étant que quand il lance sa canne à pêche, elle casse, enfin, le fil casse tout son mêlé. C'est un gros bazar. Et passé mon éclat de rire immédiat, parce que la scène est drôle, je vois dans sa manière de me regarder qu'il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Et moi, je saisis qu'il vient de... Là, un truc a changé. On vient de passer à autre chose. Et je vois le regard de mon père qui a compris ça aussi. Je pense que mon père met déjà un peu plus de mots là-dessus, parce que sans doute qu'il y a plein de choses qui m'ont échappé à ce moment-là, à 14-15 ans. Moi, je les mettrai plus tard en comprenant exactement de quoi il s'agissait. Effectivement, il est malade, il a Alzheimer. Et donc, ça en est les premiers signes que moi, je vois. En tout cas, la première fois que je comprends ça de mon grand-père, on est en train de pêcher, ce qu'on fait depuis toujours, ensemble, en Italie. Et puis, bah, là, il ne comprend plus ce qu'il fait là. Et ce regard-là... ce regard-là, c'est un drôle de truc. J'ai l'impression, effectivement, de voir un gamin qui m'appelle au secours, presque, alors que je ne comprends pas ce qui se joue du tout. C'est la lecture que j'en fais aujourd'hui, à moi, 50 ans. Mais il s'est joué quelque chose de cet ordre-là. D'un coup, un gamin de 7 ans, qui en fait en avait presque, en avait 75, a pris au secours. Et ça m'a bouleversé, ce truc-là. Au point de, 40 ans plus tard, avoir encore son regard imprimé. Et avoir eu besoin de le dessiner pour en garder une trace, si ce n'est définitive, en tout cas, en avoir gardé une sensation. Je sais, quand je vois le dessin que j'ai fait de mon grand-père là, je le vois, lui, je le reconnais, lui. Il est derrière ces deux petits ronds épurés et ces trois traits un peu de travers. Là, en l'occurrence, le dessin me permettait de faire des choses que les mots n'auraient pas pu me permettre de faire. Si j'avais dû écrire ça, je ne sais pas ce que j'aurais mis comme mot, à part quelques bêtises. Par contre, dessiner... Ou des trucs convenus, effectivement, raconter l'anecdote de manière un peu factuelle. Sauf que si j'attrape vite une sensation en faisant quelques traits, quelques dessins, eh ben, il m'arrive parfois de revoir certains dessins 30 ans plus tard, aujourd'hui, et de comprendre encore très bien. Effectivement, ce truc un peu indicible, là, je ne saurais pas mettre de mots, mais je vois très très bien le moment de joie, le moment de peine, le moment de doute, je le comprends très très bien. Là, j'aurais mis une connerie si j'avais écrit, j'aurais mis quelque chose de très convenu. Par contre, le dessin permet de contourner un peu ça, oui. C'est mon langage, c'est mon vocabulaire, en fait, quoi.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi. Oui. En l'occurrence... Bang Bang de Nancy Sinatra.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
En termes de morceaux dépouillés, avec très peu de choses, avec l'essentiel, une guitare qui a une réverb énorme et puis la voix incroyable de Nancy Sinatra, on peut pas faire plus dépouillé. Et pourtant, il y a une dramaturgie incroyable dans cette chanson. Je trouve qu'elle dégage un truc, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'ils n'y ont mis en termes d'instrumentarium presque. Il faut se redire, mince, il n'y a qu'une seule guitare. Ce morceau, je l'ai découvert assez tardivement, en fait, il y a 25 ans seulement que je l'ai découvert, donc j'en avais 25. Et il correspond, je le découvre, à un moment de bascule de ma vie, justement. C'est la personne qui n'est pas encore ma compagne à ce moment-là qui me fait une cassette, une compile sur une cassette de morceaux qu'elle écoute et qu'elle aime. Il y a Pulp, il y a plein de choses dessus que je ne connaissais pas moi forcément, je n'écoutais pas forcément ça. Et il y a ce morceau. Et toute cette compile et ce morceau en particulier, ça va un peu devenir la BO de ce moment de ma vie où je décide de quitter tout un tas de choses pour me jeter à corps perdu dans une nouvelle vie. Donc cette cassette-là et ce titre-là, c'est ça.
Ce qui est fou, c'est qu'en fait, ce morceau, c'est l'histoire d'un coup de foudre. C'est aussi l'histoire d'une rupture, parce que le gars est parti. Et il y a ces mots magnifiques où elle dit... Il a même pas dit au revoir, il a même pas pris la peine de mentir.
Et pourtant, j'y suis allé quand même. C'est bien la preuve que la chanson dégage quelque chose de plus grand que nous. Bang bang. That awful sound, bang bang. My baby shot me down.
Le livre commence et se termine par une scène d'amour. Un homme et une femme nus dans un lit. Et tout de suite après, on est dans une gare, sous un soleil de plomb, quelque part en Italie. C'est le début de Senso, bande dessinée d'Alfred, paru en 2019. L'histoire d'une rencontre entre Germano et Elena. Quand elle se mettra nue devant lui, elle dira « Je n'ai plus le corps de mes 20 ans ». Et il lui répondra « Vous ne m'auriez pas autant plu à 20 ans ». Ces deux-là se sont rencontrés comment ? Parce que le train de Germano a eu 6 heures de retard, parce que sa chambre d'hôtel n'était pas réservée, parce qu'Elena s'emmerdait à la fête de mariage où elle était invitée. Le hasard a joué le jeu dans cette saut.
Si tout s'était passé comme prévu, il ne se passait rien. Et quand j'écris une histoire, d'ailleurs, je ne l'écris pas. Je me laisse porter. Je me donne quelques balises. Et puis je me laisse porter. J'improvise au quotidien sans savoir exactement où je vais. Chaque situation pas prévue me permet au moins d'imaginer pour moi quelque chose que je n'aurais pas envisagé si j'avais écrit un scénario. En fait, si on est disponible à l'imprévu, ça change tout. Ça, c'est un truc qui me fascine.
Mais vous vivez comme ça, en fait.
Alors, je ne sais pas si j'arrive tout le temps à vivre comme ça, mais j'y tends. Enfin, en tout cas, je fais en sorte que dans ma vie, il y ait de la place pour ça tout le temps. Il y a quelques années où j'ai eu un moment très difficile psychologiquement, enfin, un moment pénible qu'il a fallu que je me fasse un peu accompagner pour reprendre un peu pied. Je me souviens très bien qu'il y avait quelques séances durant lesquelles ce qui me faisait le plus souffrir et que je verbalisais, c'était que je n'arrivais plus à voir au quotidien de la poésie et de l'imprévu. Je ne cherchais pas le grand truc, la grande révélation. J'étais juste en train de dire, mince, j'arrive plus à m'émerveiller d'un tuyau d'arrosage qui est de côté, qu'on dirait un serpent, et qu'en plein milieu de la chance, j'en sais n'importe quoi. Ce truc que je montre à ma gamine depuis qu'elle est toute petite, quitte à des fois arriver un peu en retard à l'école s'il faut, mais il m'est souvent arrivé de m'arrêter en vélo avec ma fille derrière pour lui montrer un truc qu'il ne fallait surtout pas louper, là, qui était dans un coin de trottoir. Un bout d'un vieux sac poubelle, je sais pas, avec un truc, mais on aurait dit un visage, on aurait dit un Muppet Show au milieu, je voulais à tout prix qu'elle le voie. Et j'ai fait ça tout le temps. Et la période où j'ai traversé cette espèce de marasme, c'est que j'ai perdu l'imprévu.
Mais tout ce qui nous entoure essaie de contrer l'imprévu, en fait.
Mais ouais, la vraie vie, de plus en plus, essaie de contrer tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'imprévu et du pas droit. Ouais, ça essaie de normer le biscornu. Alors moi, ce que je veux, c'est que quelque chose ne soit pas prévu, elle soit biscornue. Et s'il n'y a plus ça, putain, il n'y a plus grand-chose, quoi.
Là, vous avez choisi qu'on se retrouve au Centre culturel italien, au centre de Paris. On est passé du parc, parce que les gamins de l'école d'à côté étaient en récré à la bibliothèque. L'Italie, elle est présente dans plusieurs de vos livres. Elle est très présente dans le dernier, Les Jardins invisibles. Et on a la sensation que l'Italie, c'est un pays qui vous apporte aussi des solutions. C'est un pays dont où vous avez grandi, c'est un pays dont sont originaires votre père, votre grand-père.
Donc c'est un pays magique, déjà, je pense, l'Italie. C'est un pays qui, pendant des années, je crois, allait moins vite que les autres. J'avais la sensation que chaque fois qu'on revenait en Italie, pour les étés, pour les vacances, les choses, elles étaient un peu restées à la place où je les avais laissées quelques mois avant ou quelques temps avant. Et ça me faisait beaucoup de bien. Je pense pouvoir dire d'ailleurs que les temps passés en Italie, en France, sont pour moi les plus heureux de ma vie, de mon enfance, en tout cas. Et je pense que c'est aussi ce qui me rattache aussi fort à ce pays. Quand j'y pense ou quand j'y retourne, ben je revois ça, je vois qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, dans ces moments-là, j'étais plus un petit garçon anxieux, j'étais un petit garçon heureux. Quand j'ai un souci, quand j'ai un imbroglio, en tout cas, me dire, je pars 3-4... D'ailleurs, ma compagne, parfois, me dit, encore aujourd'hui, me dit, va faire un tour là-bas. Et ce que je fais régulièrement, il y a toujours un moment où, OK, sans avoir trouvé la solution, moi, j'ai trouvé un apaisement. Donc, je peux rentrer et on repart un peu à zéro. C'est un endroit... c'est un refuge, aussi. C'est une cabane, au bord de la mer, en plus, la classe.
Lui vient de Turin, Andrea Laszlo de Simone, un memento migliore.
Ho perso il cuore d'un amico vero, ho perso tutti e non ho più nessuno, ho dato amore ma non sono stato sincero ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo, ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguir l'esempio di nessuno. Amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo. E senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto. E ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo. O più probabilmente, non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro. Sbaglierò per sempre, nessuno, 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 nessuno ha mai avuto un momento migliore, nessuno, 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 nessuno.
Alfred a fait du théâtre, comme ses parents, mais il est surtout resté en coulisses pour les dessiner. Il le raconte dans son dernier livre, autobiographique, qui s'intitule « Les jardins invisibles ». Il raconte des fragments de sa vie, la décision de s'installer à Venise quand il apprend qu'il va avoir un enfant, le gouffre qui s'est ouvert quand il ne pouvait plus dessiner, ou encore des moments avec sa fille.
L'histoire qui ouvre ce livre-là, et celle qui a déclenché mon envie d'aller chercher tous ces souvenirs et de prendre tous ces fragments, tous ces petits moments.
C'est quoi cette histoire ?
La première histoire, c'est que je suis à Naples avec ma fille, on a un rendez-vous pour... À ce moment-là, mon livre, comme Prima, est adapté au cinéma, il y avait un tournage. il fallait rejoindre le lieu du tournage sur le port de Naples, qui est un labyrinthe en soi, et en pleine nuit, et je me perds. Voilà, je me perds, et je commence, alors évidemment sans lui signifier à elle, qui est plus petite, qui a 8-9 ans à ce moment-là, mais je commence à paniquer, et ça me renvoie à des moments de mon enfance. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait autour, j'étais perdu, j'avais l'impression que j'avais de prise sur rien, et il est arrivé à plusieurs moments de ma vie que je me retrouve, même adulte, dans ces situations où, mon Dieu, je suis encore ce petit gamin perdu, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne comprend pas ce qu'on lui avait dit, qui ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Et à ce moment-là, ce qui se passe, il se passe quoi ? Il se passe que bah, c'est ma fille qui me sort de là, quoi. C'est ma gamine qui a repéré où il faut qu'on aille, qui arrête au taxi, qui dit on va descendre là. C'est moi qui panique encore plus, et c'est elle qui me dit non, on va marcher là, on va... et qui me ramène jusqu'à l'endroit exact où il fallait qu'on... J'aurais jamais été capable de retrouver moi. Et je prends conscience, une fraction de seconde, encore une fois, il n'y a qu'un dessin qui pour moi me permet de raconter cette sensation-là, et c'est celui que je fais dans mon carnet, où je la vois devant moi, et j'ai l'impression que c'est moi qui ai 5 ans, et que c'est elle qui est en train de me protéger. Rien que de dire, ça me trouble. Et ça a bouleversé plein de choses sur ma façon d'appréhender déjà le fait d'être un père. Ça pouvait aussi vouloir dire accepter que ton enfant te protège et te fasse grandir à son tour. Et puis sur ma manière d'être attentif à elle, peut-être si je l'ai toujours été, mais je crois que j'ai redoublé d'attention sur ce qu'elle avait à me dire, sur ce qu'elle faisait de sa propre vie, elle, de jeune fille qui a bientôt 17 ans aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là, ce petit instant en tout cas, j'ai eu besoin de le noter à chaud, de le dessiner à chaud, sans objet autre pour moi que d'en garder la trace. Il vient de se passer un truc qui bouleverse ma vie là. C'était presque comme un fil qui dépassait, sur lequel j'ai eu envie de tirer pour me dire ça, tiens, ça me rappelle quand j'ai appris qu'on allait être parents, et j'étais effectivement en Afrique, et il y avait déjà une histoire folle avec ces gamins qui m'ont appelé papa Alfred à ce moment-là, alors que ça, je venais de l'apprendre il y a 3 secondes. Et puis je tire le fil, et puis d'avoir tiré tous ces petits fils-là, en fait, m'ont donné envie de faire ce livre qui s'adresse à l'enfant que j'étais autant qu'à l'enfant que j'ai eu. C'est un fil entre nous. Elle l'a lu finalement il n'y a pas si longtemps. Elle était à Venise, elle avait attendu d'y être pour pouvoir le lire, ce bouquin. Et quand elle m'a écrit un long message derrière, j'ai eu la sensation d'avoir au moins réussi à tendre ce fil-là entre l'enfant que j'étais, le père que je suis, l'adulte, et le papa que je suis devenu, l'enfant que j'ai eu, ce que je voulais lui transmettre, ce que j'apprends d'elle. Toutes ces choses-là, ce sont un moment... tout est tombé sous le sens. Voilà. J'ai pas d'autres mots. J'ai mieux des dessins que des mots, en fait, des fois. Pardon.
Il y a une séquence photo dans cette émission.
Oui.
Alors, je vais aller chercher mon Polaroid. Alors, à nouveau, vous tenez le micro.
On le fait ici, on retourne dehors.
On peut retourner dehors, c'est pas mal. Ou alors, on fait la carte blanche et...
Oui, il n'y a pas de souci. C'est l'exemplaire que j'avais acheté quand j'avais une vingtaine d'années, d'ailleurs. 75 francs. C'était cher quand même, la poésie.
En tout cas, là, donc, c'est un recueil de poèmes de Baudelaire.
C'est Baudelaire. J'ai choisi de lire un poème qui s'appelle « Enivrez-vous », qui est un poème... je fais l'erreur de vouloir le lire après Reggiani, qui en a fait... aujourd'hui, c'est une archive qui tourne beaucoup et qui me bouleverse à chaque fois que je l'entends. Donc je m'excuse auprès de Baudelaire, je m'excuse auprès de Reggiani, mais je tenais à lire ce petit texte qui s'appelle « Enivrez-vous », parce qu'il a quelque chose, il raconte justement quelque chose du « ça peut nourrissez votre vie de petites choses, mais faites-le vraiment. » Il faut être toujours ivre, tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. J'ai rajouté ce que Reggiani ajoute, qui n'est pas dans le poème de Baudelaire, et à toute fin, il rajoute le mot « amour ». Je pense que c'est quelque chose qu'il a eu envie de faire quand il le fait, lui, et... c'est... Enfin, bon... Après un poème de Baudelaire, le silence qui suit, c'est du Reggiani. Je veux dire, faut pas en rajouter trop.
On va faire la photo ?
C'est bien parce que c'est vous.
Je pense que c'est pas mal si vous vous asseyez sur le banc rouge, là. Avec le cri des gosses qui jouent derrière, ça vous va bien ? Ah ouais, vous aviez le soleil dans les yeux, là.
Ça sera ça. Je faisais des romans photos quand j'étais gosse avec un Polaroid.
Ah bon ?
Ouais, j'en avais 20. Et puis, une manière de faire de la BD, quoi, mais avec des photos.
Mais on fait deux pas pour voir mieux, parce que là, on est en plein soleil, en pleine lumière, on voit pas grand-chose.
Moi, tout me va.
Parfait.
C'est bon ?
Ouais.
Super.
Juste comment vous dessinez, vous ? Vous commencez par quoi quand vous dessinez ?
Quand je dessine, c'est toujours les lunettes. Je fais toujours les lunettes en premier. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, quand je dessine, je les enlève. J'y vois pas très bien sans. Je suis myope, mais ne pas y voir bien m'oblige à me concentrer sur un point. J'ai des lunettes qui sont régiment parfaitement adaptées au dessin, je les mets jamais. Donc je pense que je me bousille d'autant plus les yeux, mais c'est pas très grave. Je retire mes lunettes, je me mets très près de la feuille et je dessine souvent, si je me dessine moi, c'est les lunettes, alors que je les ai pas au moment où je dessine. C'est mal foutu, hein, quand même.
Ben voilà, c'est fini.
Merci.
Les Jardins Invisibles d'Alfred est publié chez Delcourt dans la collection Shampoing et apparaîtra en mai La solidité du rêve dédiée à l'univers d'Arthur Ashe. Koyen Guyane réalise Totémique et c'était avec Laurent Baudouin ce matin. Perrine Malinge programme les invités. Ilinka Negulesco prépare l'émission. JB Audibert choisit les disques de notre BO. Et Ali Rebéi est entré dans ce studio pour nous annoncer le programme de Grand Bien vous fasse. Salut Ali.
Bonjour Rebecca Manzoni. Eh bien, ce matin, quelques destinations pour les vacances ou pour un week-end. Là, vous partiriez où si vous aviez une baguette magique, Rebecca ?
Dans un endroit où je suis jamais allée, à savoir Porquerolles.
Porquerolles. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller à Édimbourg, là, tout de suite. Bon, Le Masque et la Plume, dimanche, 10h et 20h, c'est quoi le programme ?
Ce sera en direct pour parler de l'actualité du cinéma.